Bonsoir. Le comité international d'accompagnement de la transition demande au gouvernement congolais d'intensifier ses activités militaires contre les combattants rwandais à l'est de son territoire. Ce collège d'ambassadeurs a exprimé le plein soutien de la communauté internationale à toute initiative que la République démocratique du Congo pourrait prendre pour assurer la sécurité dans les provinces de Kivu occupées dans une grande partie par les combattants étrangers dont ceux venus du Rwanda. Le communiqué du CIAT a été publié après une tournée qui a emmené dans le Kivu tous les 14 ambassadeurs qui forment ce comité international. La déclaration du CIAT faite cette semaine a marqué l'actualité et vous le savez, Dialogue entre Congolais revient avec analyse de journalistes sur tous les points qui ont marqué la semaine. Dans cette tribune de presse, nous parlerons aussi du lancement de l'opération d'enrôlement et d'identification dans la province orientale et du Bas-Congo. Nous recevons dans ces studios, pour développer tous ces thèmes, John Ngumboa, journaliste à Antenne A, une chaîne audiovisuelle à Kinshasa, Jean-Claude Kamangamutonde, directeur de l'agence de presse Congo Actualité, et en ligne, dans cette tribune de presse, Kasongo Mwema Yamba Yamba, journaliste à la Radio France Internationale. La FARDC a appelé à intensifier ses activités militaires contre les combattants rwandais encore présents dans son territoire, je vous le disais. C'est le premier sujet retenu dans cette tribune de presse. Claude Kamangamutonde, je rappelle que vous êtes directeur de cette agence de presse Congo Actualité. Comment vous avez perçu justement ce communiqué du CIAT?
Voilà, nous on perçoit le communiqué en reprenant par exemple déjà dès le début le CIAT qu'on remet sur la place publique en tant que institution de la transition en cours en République démocratique du Congo. Et le CIAT, je cherchais à dire, lance ce communiqué et demande au gouvernement congolais d'intensifier les tentatives de ramener la sécurité sur le terrain dans la partie du Kivu. Est-ce que prendre les choses de cette manière-là, est-ce que ça ne peut pas aussi nous conduire à poser la question de savoir si cette institution de la transition se dérobe un peu quelque part, parce que pour un certain nombre de gens au sein de l'opinion, une des questions à savoir aussi, c'est celle de savoir si la MONUC elle-même, qui est aussi partie prenante dans la situation actuelle en République démocratique du Congo, ne peut pas faire usage du chapitre 7 de la charte de l'Organisation des Nations Unies. C'est une des interrogations qui nous sont venues comme ça. Peut-être qu'on y reviendra au cours de ce programme que vous
initiez. Donc vous voulez dire que le CIAT, étant donné membre des institutions de la transition en RDC, au lieu de dire à la FARDC aussi membre de prendre des initiatives militaires, il pouvait aussi en tant qu'institution prendre des initiatives militaires par la MONUC qui est une des composantes.
Puisque une des questions que nous nous posons en ce moment-ci, c'est celle de savoir, est-ce que les FARDC, l'armée nationale congolaise, a les moyens qui lui manquaient, puisque si elle a acquis ces moyens, qu'on peut croire que le CIAT lui trouve aujourd'hui, on peut bien se poser la question de savoir s'il ne faudra pas également demander au gouvernement congolais de donner le même ordre à ses troupes pour ce qui concerne la région de l'Ituri, où la MONUC est assez présente et où tant bien que mal, et elle arrive à pacifier cette partie qui est à la frontière de l'Ouganda, par exemple.
Mais on sait que la MONUC, jusque-là, n'a pas encore de conseil de sécurité, a reçu le mandat de rapatriement forcé des FDLR. Est-ce que ça ne pose pas un problème politique, un problème de mandat?
Rappelons-nous d'abord que le CIAT veut dire Comité international d'accompagnement de la transition, dont un certain nombre de pays qui composent cette communauté ont une voix assez forte au sein de l'Organisation des Nations Unies. C'est-à-dire que attendre qu'il y ait un mandat de l'Organisation des Nations Unies peut aussi nous amener à poser la question de savoir s'il n'y a pas possibilité, s'il n'y a pas nécessité à pousser également les choses de ce côté pour qu'on arrive à trouver une question, une réponse d'ordre sécuritaire en ces temps où le Congo, la République démocratique du Congo, s'achemine vers les élections que tout le monde attend.
On va aller en France, à Paris. Kasongo Mwema, vous participez avec nous dans ce dialogue entre Congolais, tribune de presse. Vous êtes journaliste à Radio France Internationale. Comment vous, de loin, vous avez perçu le communiqué du CIAT, Comité International d'Accompagnement?
Non, d'abord que le communiqué du CIAT va dans la droite ligne, je pense, de la mission de cette institution qui, Claude le rappelait tout à l'heure, accompagne la transition. Cela rentre, je crois, également dans les efforts que la communauté internationale déploie, une communauté internationale qui est très très mobilisée. Ce n'est pas toujours le cas malheureusement, sur la question de la paix en RDC, sachant bien entendu que la paix en RDC conditionne la paix dans l'ensemble de l'Afrique centrale, si pas au-delà. Ce qui frappe en fait, c'est surtout de voir que à chaque fois, c'est la communauté internationale qui doit rappeler à l'ordre les Congolais, que ce soit les hommes politiques ou que ce soit, en ce qui concerne le cas que vous citez, que ce soit l'armée. Je constate donc que le CIAT encourage l'armée à intensifier ses actions pour tenter de mettre fin au séjour des Interahamwe et autres milices rwandaises en RDC. Mais je constate également, en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre, que le CIAT a promis d'accroître les capacités de l'armée congolaise. Et je crois que bon, la question de l'armée est une donnée centrale dans tout ce qui va se passer en RDC. Accroître les capacités de cette armée, je pense que cela passe aussi par l'accélération du brassage des troupes et des hommes, ce qui est en cours, même si, au dire d'un certain nombre d'hommes politiques, on ne pourra peut-être pas brasser autant de troupes que l'on avait prévu, mais je pense que, avec déjà, je crois, 6 brigades qui devraient être brassées rapidement, ben, je pense qu'on pourrait avoir ce qu'on appelle la sécurité à minima. Bon, la question de l'armée et la capacité d'accroître la capacité de l'armée, je pense que c'est aussi, ça passe par la paie régulière de la solde des militaires pour qu'ils ne se payent pas sur les populations et ne soient tentés par l'aventure. Je vous rappelle là aussi que c'est encore le CIAT qui a tiré la sonnette d'alarme sur un certain nombre de sommes d'argent qui disparaissent alors que, en principe, c'est censé être versé pour la paie des militaires. Donc je crois que le CIAT est tout à fait dans son rôle. Maintenant, est-ce que la MONUC ne pourrait pas faire davantage que ce qu'elle fait? Je crois que c'est tout à fait possible, mais encore une fois, là je reviens un peu à ce que vous avez dit vous-même, je crois qu'il faudrait obtenir peut-être le changement du mandat de la MONUC sur le terrain pour qu'il soit effectivement chargé de cette question du rapatriement des interarmées.
Alors pour les cas de FDLR, faudrait-il continuer continuer à compter sur la FRDC qui a un problème de structure, un problème d'organisation, il faudrait compter sur la communauté internationale qui a des moyens et pourrait éventuellement, avec une pression, avoir aussi un mandat nécessaire pour le faire.
Mais je pense que les deux vont de pair. Les FARDEC ont des difficultés, vous le rappelez si bien, mais je crois que même si la communauté internationale doit intervenir, l'intervention de la communauté internationale, ce serait d'abord sur le plan de l'appui logistique à cette armée qui n'est pas parmi les mieux équipées du monde, mais également puisqu'il existe déjà sur le terrain des troupes étrangères, des troupes de l'organisation internationale, de l'ONU, on pourrait également appuyer sur les troupes de l'ONU. Mais je crois que la question de la RDC, c'est d'abord une question congolaise. Et cela, je pense que les acteurs, tant politiques qu'intellectuels que les autres, doivent s'imprégner de cette réalité. C'est que d'abord, la question congolaise est une affaire de Congolais.
On va rentrer au studio, vous restez avec nous, Kasongo Mwema. On rentre ici au studio de Radio Okapi. John Gomboa, vous êtes journaliste à Antenne A, une chaîne à Kinshasa. Comment vous avez réagi par rapport au communiqué du CIAT publié cette semaine?
Il en ressort, à mon avis, une interpellation sur 4 volets. D'abord, pour moi, ce communiqué est une interpellation aux Congolais, qui doivent être maîtres de leur destin, absolument. Parce que l'armée étant un outil de souveraineté d'un État, la RDC doit être en mesure de pouvoir contrôler toute sa frontière, de pouvoir la sécuriser. Ça, c'est donc la première interpellation. Ensuite, il y a la nécessité, en dessous de ces communiqués, il y a la nécessité de la formation rapide de l'armée qui traîne. Et vous savez que la formation de l'armée est aussi un préalable à l'organisation des élections. À ce jour, tout ne se passe pas pour le mieux. Il y a encore des choses à refaire. Troisièmement, il y a cette sorte d'appel autour de, sur l'intrigue autour du retrait des forces qualifiées des négatives, les FDLR, qui doivent rentrer pour certains et pour d'autres, qui peuvent être conservées dans la mesure où elles peuvent être utilisées à des fins jusque-là non clarifiées. Et quatrièmement, ce communiqué est aussi une manifestation de la présence affirmée de la communauté internationale qui garde la main haute sur la République démocratique du Congo jusqu'à.
Mais que pensez-vous justement de l'idée de certaines personnes qui pensent qu'il faudrait donner cette tâche qu'à la communauté internationale pour rapatrier de force les FDLR puisque la communauté internationale a le moyen?
Bon, disons que c'est peut-être un arrangement auquel il faut recourir en dernier ressort. Parce que le Congolais, à ce jour-ci, dans le cadre de l'accord global et inclusif, n'ont pas de motif valable à garder sur les territoires nationaux des étrangers qui pillent, qui tuent d'autres Congolais. Et donc, logiquement, ils devraient tous se mettre ensemble pour pouvoir chasser ces gens. Logiquement. Alors, il faut amener les Congolais à comprendre cela, à pouvoir prendre sur eux de pouvoir faire de la propriété dans leur parcelle. Et ce n'est pas aux étrangers de venir le faire. Mais alors, si effectivement il s'avère que le Congolais traîne les pas comme c'est le cas, alors on peut, pour des raisons pratiques, recourir à la communauté internationale, à la MONUC dans les cas d'espèce, pour soutenir ou anticiper sur cet effort en attendant que l'effort vienne. En tout cas, cet effort doit absolument venir d'abord des Congolais, des forces armées de la République démocratique du Congo.
Tesson Ngoumouema, vous savez aussi que l'Union africaine s'était prononcée favorable pour l'usage de force dans l'opération de rapatriement des FDLR, mais jusque-là, ça traîne au niveau de l'Union africaine. Est-ce qu'il faudrait alors attendre que l'Union africaine puisse réunir tout le moyen nécessaire pour se lancer ou il faudrait que se compter sur l'armée qui n'est pas encore réunifiée et formée?
Mais d'abord, je crois qu'il ne faudrait pas se faire d'illusions. Hein. L'Union africaine n'a pas plus de moyens que la RDC. Hein. On l'a vu sur le Darfour, on l'a vu également dans d'autres terrains instables. Bon, l'Union africaine apporte un soutien politique, ça c'est évident, et c'est d'ailleurs, je crois, tout à fait dans son rôle. L'Union africaine, on ne doit pas attendre que cette union puisse disposer d'une force. D'ailleurs, bon, ça c'est un petit peu dans ses prévisions. La dernière rencontre au sommet à Kinshasa avec notamment le président Dos Santos d'Angola, le président Bongo du Gabon, et le président Sassou du Congo-Brazzaville et le président Kabila de l'RDC, est encore revenu sur l'intérêt qu'il y a à accélérer la mise en place de ces brigades d'intervention au nom de l'Union africaine. Bon, je crois que les pays de l'Afrique centrale ont manifesté par là leur intention d'intervenir dans ce qui se passe en République démocratique du Congo, parce que de toute façon, ils sont, qu'on le veuille ou pas, impliqués. Je ne pense pas qu'il faille attendre plus de l'Union africaine. Encore une fois, je crois que l'apport extérieur est important, mais l'apport extérieur ne viendra qu'en complément de la volonté des Congolais de mettre un terme à tout ce qui se passe mal dans le pays.
Claude Kamanga-Moutonde, faudrait-il compter sur l'Union africaine? Il faudrait compter que sur la FARDC, à défaut de la communauté internationale dans son ensemble.
Bon, il faudra peut-être commencer à poser que la République démocratique du Congo fait partie de tout cet environnement international. Donc on est inscrit dans ces possibilités d'échange entre les pays qui forment l'Organisation des Nations Unies. Voilà, 2 ans après que le dialogue intercongolais est terminé, et voilà que le Congo s'achemine vers la transition que l'on sait. Compter sur rien que sur la volonté des Congolais, ça reste encore la grande question à se poser aujourd'hui. D'aucuns ont même estimé à certains moments qu'il fallait une sorte de pression qui soit interne et même extérieure. Extérieure, c'est celle de la communauté internationale, mais interne, c'est la pression des Congolais elles-mêmes, qui serait une sorte de prise de conscience et une manifestation de leur volonté à vouloir que cette transition se termine et qu'il y ait la possibilité d'une organisation d'élections sur le territoire congolais.
John Ngumboa, pensez-vous qu'il faudrait s'appuyer sur l'Union africaine ou compter sur la FRDC?
Bon, je pense qu'il faut, je l'ai dit tout à l'heure, compter d'abord sur nos propres forces. La MONUC, par ailleurs, ne vient qu'en accompagnement, qu'en soutien. C'est vrai, on peut se demander aujourd'hui, est-ce que les FRDC...
Je pose ma question sur l'Union africaine.
Oui, parce d'accord. La MONUC, autant que l'Union africaine, c'est toutes des forces extérieures. Je veux dire composées des militaires venus de l'extérieur du pays.
Mais à la différence près que l'Union africaine s'est prononcée déjà favorable pour l'usage de force dans le rapatriement des...
Oui, mais comme Kassongo Mouma le disait tout à l'heure, l'Union africaine n'a pas plus de moyens que le Congo. Moi, je pense que il faut... c'est une preuve de vérité, comment on dit, une preuve par neuf de la réunification de l'armée, que de combattre les FDLR et de les chasser du pays. Si, comme on le craint, le FRDC ne serait pas une armée réunifiée, autant que nous le sachions maintenant, parce que nous risquons de le savoir trop tard. Alors, si les FRDC sont un début d'armée, je crois que elles ont déjà suffisamment d'hommes pour pouvoir combattre la dizaine de milliers de forces négatives qui se trouvent logées dans le Kivu. Et donc, considérons ça comme une première épreuve de cette armée. Qu'on le sache si cette armée peut être en mesure de sécuriser les pays. Parce que si nous allons avec cette armée bancale et qu'on la considère quand même comme étant une armée, les jours où on découvrira qu'on ne devra pas compter sur elle, ça sera trop tard. Et nous aurons découvert que nous n'avons qu'une armée des milices qui vont évoluer en fonction de leur commanditaire. Et ça sera trop tard pour le Congo en ce moment-là.
Dialogue entre Congolais chaque vendredi, vous le savez. Nous revenons sur le point qui a marqué l'actualité de toute la semaine. Deuxième point retenu, lancement lundi dernier dans la province orientale et le Bas-Congo de l'opération d'enrôlement et d'identification. La CEI a enrôlé environ 3 500 000 électeurs pour la seule province orientale et 1 500 000 pour le Bas-Congo. Claude Kamanga-Moutande, vous avez aussi sans doute parlé de cet événement dans votre agence, puisque je rappelle que vous êtes directeur de l'agence de presse Congo Actualité. Comment vous avez justement vécu ce moment de lancement de cette opération dans la province orientale?
Peut-être en rappelant d'abord que ce lancement des opérations, donc d'identification de Congolais, des électeurs dans la partie de la province orientale, vient après ce qu'il y a eu à Kinshasa. À Kinshasa, il était prévu qu'on y mette un terme le 25 juillet de ce mois-ci, mais voilà qu'il est admis qu'à cause de certains retardataires, on pourra aller jusqu'à la fin du mois de juillet. À prendre les premières données qui viennent de la province orientale, il apparaît que c'est assez satisfaisant. Il en est de même de ce qui se fait dans la province du Bas-Congo. Maintenant, quand bien même qu'il y ait quelques éléments du terrain qui posent des problèmes de logistique, qui posent même jusqu'à des problèmes d'ordre culturel, mais il apparaît de plus en plus qu'il y a eu une volonté manifeste des Congolais de vouloir se faire enrôler pour, comme le disaient certains journaux dans la presse de Kinshasa de ce matin et même d'il y a encore quelques jours, arriver à mettre un terme à sanctionner cette longue transition dans laquelle la République démocratique du Congo s'est installée depuis 90. Notons ici que ça fait aujourd'hui 15 ans que le Congo est en transition. Et peut-être qu'on reviendra sur les autres aspects liés à tout ce qui est en train de se faire.
Mais restons d'abord pour la province orientale. On sait que c'est une province à problème. Le point d'inquiétude, c'est l'Itourie. Est-ce que vous pensez que ces lancements atténuent aussi de la sécurisation de la province orientale, des l'Itourie en l'occurrence?
Le problème de la sécurisation, d'après les dernières informations qui nous viennent de cette partie du Congo, établissent qu'il y a une sorte de confiance de la population dans ce corps qu'est la brigade intégrée qui est sur le terrain et qui bénéficie quand même du soutien de la MONUC et d'un certain encadrement qui est réel. Prendre le cas de l'Itourie peut amener même à anticiper, à aller jusque dans les provinces du Kivu où il y a les mêmes problèmes de sécurité. Sécuriser les opérations qui se font, sécuriser les populations elles-mêmes qui cherchent à se faire enrôler. Bon, il y a tout un encadrement et on peut croire qu'avec l'apport manifeste et déclaré de la MONUC, il peut y avoir possibilité de donner aux Congolais qui tiennent, tel qu'on le remarque, à se faire enrôler, à le faire et à faire avancer la machine, comme on le dit à certains moments.
John Gombo, vous êtes aussi à Kinshasa, vous avez aussi couvert sans doute cet événement, vous en avez parlé dans votre organe de presse, puisque je rappelle que vous êtes journaliste Antenne A, c'est une chaîne audiovisuelle à Kinshasa. Comment vous avez interprété, analysé ce lancement de l'opération d'enrôlement et d'identification dans la province orientale et au Bas-Congo?
Je dois avouer que je trouvais que il était temps que après l'univers assez climatisé entre guillemets de Kinshasa, la commission électorale indépendante entre en contact avec les réalités du terrain de la République démocratique du Congo, ce qui peut nous permettre déjà d'apprécier un certain nombre de choses, notamment la fiabilité du matériel, le respect de délais, ainsi de suite. Particulièrement pour la province orientale, dont je trouve les infrastructures beaucoup plus délabrées que les Bas-Congo, où il y a une certaine urbanisation quand même. La province orientale, la province martyre, on le sait, a vécu et s'est trouvé pratiquement au centre des deux guerres qui ont traversé le pays ces jours-ci. Et vous pouvez vous en douter, les infrastructures ont accusé un coup sérieux. Et donc, ça va nous permettre déjà de nous rendre compte de l'efficacité de la commission électorale de l'opération d'identification et d'enrôlement, et j'espère corriger rapidement ce qui ne pourra pas marcher.
Et que pensez-vous justement de l'aspect sécurité, puisque la province orientale est vraiment concernée par ce cas? On a le cas de l'Itourie, on a les cas par exemple d'Issirou, où la veille même de l'opération d'enrôlement et d'identification, il y a eu le coup de feu qui s'était entendu dans la ville toute la journée des dimanches. Est-ce qu'on ne voit pas là que c'est un vrai problème de sécurité qu'il faudrait tenir compte maintenant qu'on entre de plus en plus dans des zones d'inquiétude, de zones rouges?
Absolument, absolument. L'Itourie, c'est le ventre mou de ces processus du point de vue des activités armées. Bon, seulement ici, je crois que là, on ne nous apprend rien, on n'apprendra rien aux organisateurs de cette opération, parce que en amont il y a eu un certain nombre de séminaires. Je me rappelle, il y a une ou deux semaines, nous discutions encore avec vous ici sur les séminaires sur la sécurité. Il est alors grand temps que les responsables des différentes mesures, de l'application des différentes mesures de sécurité, les ministres de l'Intérieur en premier, puissent déjà voir comment appliquer ces mesures sans attendre qu'il y ait mort d'homme, qui est saccage ici et là pour qu'on se mette à geindre.
Le cas de l'Itourie, c'est au-delà de la sécurité en tant qu'assuré par les policiers. C'est un vrai problème de sécurité puisqu'il y a des milices qui sont armées. Et qui
parfaitement, mais vous savez que les séminaires comprenaient la police, l'armée, la MONUC et d'autres forces, quoi. Je crois que ici, il n'y a pas à s'en cacher. On compte énormément sur la MONUC qui a déjà suffisamment maîtrisé le terrain de l'Itourie, qui l'a sécurisé, on le voit. Et donc, ces dispositifs peuvent se greffer sur ce que la MONUC fait jusque-là. Et je crois que on peut avoir quand même un certain pourcentage intéressant des réussites.
Kasongo Mwema Yamba, vous intervenez dans ce dialogue entre Congolais depuis Paris. Que pensez-vous justement de lancement de l'opération d'identification et l'enrôlement à Kisangani dans la province de Bas-Congo?
Écoutez, d'abord, nous sommes frappés ici par deux choses. La première, c'est le choix. Bon, je sais que le choix est antérieur, mais je ne sais pas si les membres de la commission électorale y avaient pensé expressément. Le choix des provinces, c'est, à mon avis, d'une part symbolique et très éloquent. Le Bas-Congo, à qui l'opinion prête volontiers des intentions de fronde contre le pouvoir central, notamment avec le mouvement Bundu-Dia-Congo d'une part, et puis la province orientale avec Bunia comme ville symbole, hein, en raison de l'insécurité qui règne dans la région. Les seigneurs de guerre ne semblent pas baisser les bras dans cette région. Donc ça frappe, et je pense que la réussite, en tout cas jusqu'à présent, de ce travail d'enregistrement, d'identification, va, je crois, réjaillir sur les autres provinces où l'opération va commencer bientôt, je crois, le mois prochain. La deuxième chose qui frappe, c'est une sorte de contradiction, j'emploierai ce terme-là pour ne pas chercher un autre, entre la logique des seigneurs de guerre, la logique des leaders politiques congolais et la logique de la population congolaise. On a vraiment l'impression que la population congolaise est encore prise en otage par, d'une part, les leaders politiques et, d'autre part, les seigneurs de guerre. Quand on voit, par exemple, l'engouement qui a accueilli la caravane motorisée lorsque la commission électorale indépendante est venue présenter le matériel électoral, on a vu ces populations sortir spontanément à Kinshasa, et c'est le cas en province. On se demande, lorsque certains leaders politiques parlent au nom de la population, on se demande s'ils parlent le même langage. Donc là, je crois qu'il y a une véritable motivation de la population. L'abbé Malo le disait ce matin sur notre antenne. Il y a là l'expression d'un formidable espoir de tout un peuple de pouvoir enfin s'exprimer, de pouvoir enfin parler concrètement, agir sur le plan politique. C'est vrai qu'il y a ça et là des problèmes logistiques, et cela va se vérifier sur l'ensemble du territoire. Il y a des problèmes de sécurité, mais encore une fois, comme je disais, les Congolais doivent comprendre que, vu l'état dans lequel se trouve le pays, c'est un pays qui vient de sortir de plusieurs années de guerre, il faudra qu'on puisse se contenter d'une sécurité à minima. On ne peut pas, on ne pourra pas organiser ces élections dans des conditions de sécurité optimales.
Ituri, on sait, c'est une zone rouge, et le gouvernement congolais, la semaine dernière, avait lancé un séminaire sur la sécurisation, un séminaire qui tarde encore effectivement à prendre corps, parce qu'il y a des problèmes liés au financement. Est-ce que pour l'ensemble du pays, si l'opération électorale ne suit pas l'opération des sécurisations, les déploiements de militaires et de policiers, est-ce qu'il n'y a pas là le tapis devant nous, un danger qui menace le processus même, les processus électoraux?
Ben, c'est évident, je crois qu'il faut qu'il y ait un minimum de sécurité pour pouvoir organiser le processus électoral, mais encore une fois, je crois que c'est une occasion pour les Congolais de pouvoir s'engager réellement dans ce qui se passe dans notre pays. Il vous souviendra sans doute que dans d'autres circonstances, on a souvent appelé les Congolais à contribuer. C'est assez bizarre que, pour une fois, nous allons vers des élections, nous avons des opérateurs économiques, nous avons des milliardaires, puisque certains se proclament comme ça. C'était l'occasion, je pense, pour les Congolais d'intervenir, même d'aider financièrement à l'organisation de ce qui va se passer. Je n'ai pas du tout entendu que, par exemple, un tel milliardaire ait offert ne fût-ce que 10 000 dollars pour l'organisation de quelque chose dans tel coin du pays. On a vu des gens venir promettre à la télévision, se promener avec des liasses de 100 dollars. Bon, quand il a fallu faire X choses. Et là, on a vraiment l'occasion de dire, voilà, il faut amener le peuple congolais aux élections, il faut bien sûr la sécurité, mais il faut également pallier à tout ce qui peut se poser comme problème logistique. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous que la sécurité est un élément fondamental, mais je me dis que la sécurité du Congolais passe également par l'engagement de la population à aller vers ces élections. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est quoi? C'est que nous avons une sorte de contradiction entre les leaders politiques, les seigneurs de guerre et ce que veut réellement la population. Mais malheureusement, cette population, pour l'instant, sur le plan sécuritaire, est un petit peu l'otage de ceux qui détiennent des armes.
Troisième sujet retenu dans cette tribune de presse. Le président de la République s'est fait identifier et enrôler ce dimanche 24 juillet au centre d'inscription de l'Institut de la Gombe à Kinshasa en prévision d'élections générales qui doivent se tenir en RDC. C'est la première phrase que nous pouvons lire sur le site du président de la République dans l'article qui porte sur son enrôlement. L'inscription du président de la République suscite déjà de débats quant à son statut de militaire jugé par certains incompatible avec les conditions fixées pour l'enrôlement. Pas de militaire en fonction. Kamanga Mutonde, vous assistez aussi à ce débat ici à Kinshasa, où les politiciens s'empoignent. Est-ce que l'enrôlement de président de la République pose vraiment un vrai problème?
Non, un vrai problème, ça dépend de la façon dont vous vous y prenez et de la réponse que vous attendez à ce genre de questionnement, parce que pour d'autres, il s'agit d'une question de principe. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Congo voudrait s'engager vers la mise sur pied d'un état de droit. Et on a encore en mémoire la réponse du président de la Commission électorale indépendante, l'abbé Malomalo, qui faisait remarquer que sous ceux qui se posent des questions sur l'enrôlement du président de la République, n'ont qu'à aller poser les mêmes questions au ministère de la Défense et à l'état-major de l'armée nationale congolaise qui ont transmis des listes sur lesquelles il n'y avait pas quelque identification du chef de l'État, c'est-à-dire du président Kabila. Est-ce que cela veut dire que ça efface et ça écarte totalement le problème parce que il ne suffit pas que cela soit mentionné ou pas sur une liste ou une autre, mais il y a une procédure, il y a une façon de faire et c'est à ce niveau-là que se situe le débat actuel. C'est quoi? C'est-à-dire que la désignation d'une personnalité à des responsabilités au niveau de l'armée ou ailleurs est parfois sanctionnée par un décret. Et la grande question qui se pose actuellement, c'est celle de savoir si le décret qui portait le président Kabila au poste de chef d'état-major de l'armée congolaise avait été abrogé. Et c'est toute la question. Et c'est ce qui justifie le débat ambiant.
Mais si on regarde très bien dans la loi n'interdit pas aux militaires en tant que statut de se faire enrôler ou identifier, mais interdit plutôt aux militaires en fonction. Et c'est bien dit dans la loi sur l'enrôlement et l'identification. Le président peut être militaire, mais il ne peut pas, peut-être, comme disent beaucoup de gens, il n'est pas en fonction.
Il est militaire. Il y a par contre une liste de militaires qui a été transmise au bureau de la commission électorale indépendante.
Des militaires en fonction.
Militaires en fonction. On n'a jamais entendu quelque part le président de la République ou quelque part qui a été fait remarquer que le président de la République avait cessé d'être d'avoir des responsabilités sur la gestion de l'armée nationale congolaise. Ça, on n'avait jamais entendu ça quelque part. Bon, vous posez la question de savoir si c'est vraiment un problème. D'aucuns diront, bon, c'est un problème mineur, ça ne nous empêche pas de continuer, d'aller nous faire enrôler et même de voir d'autres s'enrôler. On peut dire, tant mieux, continuons comme ça, mais c'est quand même un problème qui est dans le débat actuel. Et je crois que les jours qui viendront nous permettront de savoir si on est déjà dans le bon ou si ce sera quelque chose qu'on va refaire un jour.
John Kumbwa, vous êtes ici à Kinshasa, vous assistez aussi à ce débat. Est-ce que l'enrôlement, l'identification du président de la République pose un problème?
L'identification du président de la République, Joseph Kabila, à mon avis, c'est un débat qui ne vaut même pas la peine de le faire parce que il y a un message que moi je lis à travers son identification et enrôlement. Le message pour moi c'est celui-ci. Les présidents de la commission électorale indépendante l'a dit et redit. Pour être élu, il faut être électeur. Je comprends que le président de la République a besoin d'être élu. Et il est électeur. Il s'est fait identifier et enrôler. Par rapport à sa volonté de vouloir être élu demain, je ne vois pas un obstacle majeur qui pourra l'empêcher d'y arriver.
Mais son état de militaire, parce que la loi déjà interdit aux militaires en fonction de se faire enrôler et identifier.
Oui, c'est pour ça moi je charge sa famille politique de pouvoir les défendre. Le ministre de la communication, de l'information et de la presse, Mouva Sakani, le fait déjà si bien. Il a dit hier et avant-hier, je crois, que depuis cette question aurait dû être posée lorsque Joseph Kabila prenait le pouvoir. À partir du moment où il a pris le pouvoir, il s'est désengagé totalement. C'était dans une situation exceptionnelle. Il s'est désengagé totalement de l'armée, prenant davantage son costume de chef de l'État et que son titre de général-major est resté juste à titre honorifique.
Mais on sait que certains documents officiels étaient signés général-major.
Probablement, je ne les ai pas vus moi, mais bon, je mets ça sur le compte peut-être de l'apprentissage de la démocratie, de l'apprentissage à respecter les lois qui nous caractérisent tous ici dans ce pays où personne aujourd'hui ne peut prétendre connaître tout et ne peut pas dire qu'il est le meilleur démocrate, il est celui qui respecte le mieux les règles, quoi. Je crois que le Congo traverse une période exceptionnelle. Vous savez, cette période est caractérisée par un mot très fort, le consensus. Et ce mot-là traverse tout ce qui se fait dans ce Congo actuellement. De sorte que, une fois que ce consensus se retrouve brisé, même lorsque on devrait se conformer à la loi, au respect des principes, une fois que le consensus est brisé, rien ne marche, même la loi, tout simplement. Et donc, par rapport à cela, moi je considère que si c'est un problème mineur, c'est même pas un problème du tout. Joseph Kabila veut devenir candidat, il n'a peut-être pas encore déclaré, mais il essaiera probablement qu'on le laisse.
Est-ce que ça ne risque pas d'avoir, on risque pas d'avoir là, si le problème n'est pas résolu, on risque pas d'avoir un candidat général-major?
Bon.
Il ne s'est pas
mais
encore clairement désengagé.
Sa famille le dit, Mouva Sakani part de lui-même, on le qualifie d'ambassadeur, tout en rappelant qu'il y a longtemps qu'il a été diplomate, il est ministre. Si c'est à titre honorifique, je crois. Mais de moins en moins, on parle du général-major Joseph Kabila. Je crois que ça aussi, ça tient au fait de cet excès de zèle qui se trouve dans certains turifères de Joseph Kabila, qui veulent mettre en exergue les militaires plutôt que l'homme politique, que les chefs de l'État. Eux aussi sont victimes de prismes que nous vivons dans ces pays où les militaires est devenu l'homme qui fait la loi, au lieu d'être l'homme qui devrait faire respecter la loi.
Je m'excuse, Franklin, à ce niveau, vous me permettrez de rappeler que la question que vous posez, le président de la République répond à cette question aux alentours du 30 juin dans le journal Le Soir. Il dit à Colette Braeckmann, militaire, je le suis encore, de fait, peut-être. C'est ce qui fait remarquer. Donc on ne pourra pas dire que cela ne veut pas dire qu'il y a un problème à ce niveau et qu'il faut qu'on ferme les yeux parce qu'il y a un problème de démocratie ou de consensus à préserver. Encore que je crois que la meilleure façon de respecter la loi, de faire appliquer le consensus, c'est de respecter la loi, c'est d'exécuter ce que disent les textes de droit. C'est la façon la plus simple.
On va aller aussi avoir le point de vue de Kassongoma Mayambayamba. Vous avez entendu l'enrôlement du président de la République. Est-ce que ça pose un problème? Un problème de texte ou un problème politique?
Écoutez, j'embraye un petit peu sur ce que les confrères ont dit et je saisis le tout dernier intervenant. Bon, général-major, est-ce que c'est un grade ou est-ce que c'est une fonction? Tout à l'heure, quelqu'un a rappelé que Mouva Sakani, on l'appelle ambassadeur. Nous connaissons tous des gens qui se font toujours appeler aujourd'hui Premier ministre. Tshisekedi, toujours le président congolais Sassou Nguesso l'appelait Monsieur le Premier ministre. Léon Kengo Wadondo, beaucoup de gens l'appellent mon premier. Bon, moi je pense que aujourd'hui, il faut que nous les Congolais, on évite de provoquer des tempêtes dans un verre d'eau. Je sais qu'il y a beaucoup de nos confrères, nos compatriotes, pardon, qui sont rivés, accrochés à des principes et qui ne veulent pas en démordre. Moi, je pense que le plus important, d'abord, c'est de voir que Joseph Kabila, le président Joseph Kabila, aujourd'hui, même si on dit qu'il est militaire, mais est-ce qu'il est militaire en fonction? Qu'est-ce qui prime dans le cas du président Kabila? Est-ce que c'est sa fonction militaire? Je ne sais pas s'il commande des troupes, je ne sais pas s'il commande des bataillons, des régiments, mais enfin ça, quoi que vous dites sur le terrain, vous pouvez le vérifier beaucoup mieux que moi. Quelqu'un a parlé tout à l'heure d'un décret qu'il avait nommé en qualité de chef d'état-major général, si ce décret avait été, supprimé. Mais abrogé, moi j'ai dit à partir du moment où le chef d'état-major général des forces armées s'appelle le général Kissembia, je suppose que ce décret qui a nommé Kissembia, automatiquement, il relevait de ses fonctions le prédécesseur de Kissembia et le prédécesseur de celui-là. Donc je suis en train de me demander pourquoi est-ce que nous avons l'art et l'habitude de chercher toujours ce qui cloche, ce qui divise. Mais je vais revenir plutôt moi sur ce que nous avons perçu dans cet enrôlement du président Kabila. Je crois d'abord que c'est la première étape vers l'officialisation de sa candidature. Je crois que John Gumbois l'a souligné. Alors, je me dis que c'était également un moyen de mettre devant leurs responsabilités les leaders politiques pour les appeler à s'engager un petit peu, par exemple, comme l'a fait Gizenga. Il n'est pas d'accord avec les dirigeants actuels, il le dit, mais il s'enrôle. Parce que, écoutez, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas constamment parler au nom du peuple et lui refuser précisément la chance qu'il a de s'exprimer enfin.
Mais justement, le grand problème ici à Kinshasa, c'est le problème de respect de principe, de respect de texte. Quelqu'un qui signe de décret sous général-major, quelqu'un qui n'a jamais dit clairement si c'est désengagé ou non de l'armée, quelqu'un qui le 30 juin encore disait « militaire, je le suis de fait », est-ce qu'il n'y a pas là besoin, ne serait-ce que par souci de l'imaginaire collectif, de faire un geste, un acte politique, un acte soit politique, soit administratif, pour se désengager, ne serait-ce que de l'armée, pour justement se mettre sur la course au pouvoir, si l'on veut bien.
Et moi, je pense qu'il faudrait absolument que pour la clarté du débat, la clarté du processus, que ce débat puisse, enfin, si le débat il y a, tout au moins qu'il y ait un éclaircissement et qu'un signe fort vienne de la famille du président de la République, politique s'entend. Parce que bon, que je sache, le président Joseph Kabila n'est pas juriste, bon, mais je crois que dans son équipe, il y a des juristes, comme Maître Nkoulou. Je crois que ils doivent savoir que bon, à chaque fois qu'ils engagent le président de la République sous le label général-major, que ça a une signification politique. Donc je crois qu'il est effectivement nécessaire qu'il y ait une clarification là-dessus. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'on brûle des cierges, qu'on fasse une messe pour ça? Je dis non, parce que je pense que en organisant une concertation politique, on peut trouver très rapidement une issue, et surtout le président de la République peut, à partir de son propre camp, dégonfler la baudruche. Mais encore une fois, lorsque le président Kabila aura signé un décret, parce que c'est lui qui signe le décret, disant qu'il n'est plus militaire, je ne vois pas ce que ça aura changé. Par rapport à la loi, certainement. Mais par rapport à la vie politique, on sait très bien qu'il veut redevenir président de la République et qu'il va s'engager dans la course électorale. Bon, maintenant, il va falloir effectivement qu'on puisse contraindre tous les candidats à respecter la loi.
On rentre au studio pour terminer cette tribune de presse avec vous, Jean-Claude Kamanga-Moutonde. Vous venez là d'entendre le point de vue qui pense que vraiment, il n'y a vraiment pas un problème, un vrai problème politique. Mais vous pensez vraiment que le président de la République ne devait pas le faire?
Demain, on se posera la question de savoir si réellement les Congolais, en estimant qu'il fallait s'engager vers un état de droit, ne se sont pas repris à certains moments en voulant, comme semblait le faire remarquer Mouema, une chose et son contraire. Ou bien on veut aller vers le droit et on respecte ce que dit le droit, ou bien ce n'est pas cela et on fait autre chose. Le fait est que Tout le monde veut que le Congo sorte du cafouillage dans lequel il se trouve depuis son accession à l'indépendance. Et c'est là le débat qui existe dans ce pays. Et c'est le débat qui a suscité les contradictions qu'on a vécues depuis le renversement de ce gouvernement de Lumumba. Aujourd'hui, il y a une possibilité de s'en sortir, qu'on s'y engage tous en respectant les termes de la société qu'on veut voir instaurer demain. Voilà mon avis.
C'est la fin de ce dialogue entre Congolais. Dialogue entre Congolais remercie particulièrement John Gomboy qui totalise aujourd'hui 4e semaine dans cette tribune de presse. Nous allons sans doute vous retrouver dans un prochain panel qui sera organisé pour analyser les faits d'actualité de la semaine. Merci aussi à Claude Kamangamutonde et à Kassongoumou Nyamayamba qui ont participé à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Dialogue entre Congolais.